Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Rendre la justice plus vite et s'affranchir pour cela, par exemple, des jurys citoyens en matière criminelle dans les cours d'assises. C'est une des propositions phares faites aujourd'hui par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Elle prépare la réforme globale qui sera présentée dans un mois au Conseil des ministres. Dans un instant, la première réaction de l'Union syndicale de la magistrature et le détail des annonces avec Eva Jednak. À Blanquefort, en Gironde, une nouvelle douche froide pour les salariés de l'usine Ford. Dans un communiqué aujourd'hui, la direction de Ford France confirme ce qu'il craignait, ce qu'il savait. Il n'y aura plus de production au-delà de 2019 dans cette usine. Dossier suivi par Stéphane Iscock. À l'étranger, les réactions en Corée du Sud à l'annonce surprise hier d'un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Reportage à suivre de Frédéric Ojardias à Séoul. Nous irons également dans ce journal en Allemagne découvrir le casting ministériel du SPD qui participera à la grande coalition. Ce sera avec David Philippot. Et puis l'enquête de cette édition sera signée Benoît Colombat sur des soupçons de favoritisme pesant sur l'armée française concernant les marchés du transport militaire aérien. Les premières pistes de la réforme attendue de la justice, elles ont été données par la garde des Sceaux. Aujourd'hui, Nicole Belloubet s'exprimait 3 jours seulement après les annonces d'Emmanuel Macron sur la réforme des peines. De nombreuses pistes ont été évoquées, parmi lesquelles on va essayer de voir clair grâce à vous, Eva Jednak. Bonsoir.
Bonsoir Benoît.
À commencer par cette mesure surprise concernant les juridictions criminelles.
Oui, la création de tribunaux criminels départementaux. Selon la ministre, ils se substituent au cours d'assises pour juger certains crimes, ceux passibles de 15 à 20 ans de réclusion. Et ces tribunaux criminels ne seraient composés que de magistrats professionnels sans jury populaire. Ce n'est pas la première fois que la question de la place des citoyens dans les tribunaux est questionnée. En 2011, déjà sous la présidence de Nicolas Sarkozy, sauf que lui avait favorisé leur intégration dans la composition des tribunaux correctionnels notamment, et cela dans une volonté de rapprocher les citoyens de la justice. Ici, avec l'expérimentation de ces tribunaux criminels, au contraire, le gouvernement choisit de les éloigner de la justice pénale. Objectif affiché, désengorger les cours d'assises et limiter les détentions provisoires.
Alors voilà pour l'un des aspects du volet simplification de la procédure pénale. Quels sont, Eva, les autres grands axes évoqués aujourd'hui par la ministre ?
Et bien sûr, la simplification de la procédure civile, cette fois, le gouvernement souhaite favoriser les modes de règlement à l'amiable avec un médiateur, toujours dans une volonté de désengorger les juridictions. Ensuite, sur la réforme de la transformation numérique, peu d'informations ont été apportées. Pourtant, la ministre l'avait présenté comme le cœur du réacteur. Sans transformation numérique, avait-elle dit, pas de transformation de la justice. Et enfin, un aspect très attendu par les magistrats, notamment la réorganisation du réseau judiciaire. C'est un sujet sensible depuis la réforme de Rachida Dati en 2008. Près d'une juridiction sur 4 avait alors disparu. Nicole Belloubet l'a certifié ce matin. Aucun tribunal ne sera supprimé. Cependant, lorsqu'ils sont implantés dans la même ville, les tribunaux d'instance et de grande instance seront fusionnés et on ne sait pas encore sous quelle forme.
Merci beaucoup Eva Jednak. Et cette fusion justement des tribunaux d'instance et de grande instance, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Virginie Duval. Elle est présidente de l'Union syndicale de la magistrature et elle estime que cette fusion, ce projet de fusion, encore un peu flou, risque de se faire au détriment des justiciables.
Le gouvernement a entretenu le flou sur cette question de la carte judiciaire parce que c'est une question très épineuse. Donc pendant longtemps, on nous dit qu'il n'y a pas de fermeture. Alors, il n'y aura pas de fermeture des bâtiments. Mais si on vide la substance d'une juridiction, elle ne fonctionnera plus correctement. Les tribunaux d'instance sont les tribunaux qui traitent des petits litiges, mais qui sont des litiges du quotidien qui sont importants pour les justiciables. Les litiges du voisinage, par exemple, eh bien, il y aura moins de juges, moins de possibilités de voir son dossier traité. Et donc, forcément, ça prendra plus de temps et ça sera au détriment de cette justice-là. Ce sont les juridictions qui fonctionnent le mieux actuellement, pour lesquelles les délais sont plutôt bons par rapport aux autres juridictions. Donc, l'idée, c'est de supprimer ces juridictions-là pour permettre aux autres de fonctionner moins mal. Donc, c'est vraiment une logique gestionnaire qui n'est pas dans une logique d'efficacité pour le justiciable, notamment le justiciable le plus faible. Le risque, c'est d'éloigner la justice. service du judiciaire, c'est aussi la logique du numérique. Il y a des choses qui sont bonnes hein, dans le numérique, mais on doit permettre aux personnes les plus faibles de pouvoir accéder aux juges et à la justice.
Des propos recueillis par Charlotte Lalanne, présentation de la réforme judiciaire le 11 avril au Conseil des ministres. Salah Abdeslam n'est plus mutique devant ses juges, même si ses dépositions restent laconiques. Le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015 qui ont ensanglanté Paris et Saint-Denis était entendu aujourd'hui au Palais de justice de Paris. Et s'il a accepté de répondre à quelques questions, c'est uniquement pour dédouaner Ali Oulkadi. Ali Oulkadi, c'est un des deux hommes soupçonnés de l'avoir aidé à prendre la fuite vers la Belgique. Un communiqué reçu comme un coup d'épée cet après-midi par les ouvriers de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde alors qu'ils organisaient une manifestation pour la sauvegarde de leur unité de production. La direction de Ford France a publié un texte expliquant qu'au-delà de 2019, il n'y aurait plus pour le groupe d'opportunités de production sur place. Stéphanie Scock.
Ford confirme ce qu'il avait déjà indiqué le mois dernier, sa volonté d'un retrait total du site de production de Blanquefort d'ici la fin 2019. Dans un communiqué, il confirme aussi son engagement à œuvrer pour chercher un repreneur intéressé par le site. Les représentants du constructeur automobile sont sortis de la salle de réunion par une porte dérobée et quittaient la préfecture en voiture sous les huées d'environ 200 manifestants. Peu de temps après, on a vu apparaître les représentants syndicaux, tête basse et pour certains dépités par cette confirmation. Ce matin, ils espérait encore que le soutien de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, allait faire changer d'avis Ford. Peine perdue, le groupe américain a décidé de partir et il partira. Il faut maintenant sauver les 900 emplois de l'usine. C'est la priorité des pouvoirs publics qui suivent ce dossier depuis de nombreuses années. L'État a injecté 50 millions d'euros en 5 ans à Ford Blanquefort et on s'est fait rouler, constate amèrement un salarié de l'usine.
Et à chaque chronique de mort annoncée d'usine revient la question de la responsabilité sociale des entreprises, d'où la question posée aujourd'hui à la faveur de la remise d'un rapport au gouvernement sur la question « Les entreprises peuvent-elles avoir une mission à l'échelle de la société tout entière? Peuvent-elles répondre à d'autres contingences que celles de leurs actionnaires? Et peut-on redorer le blason de l'entreprise en lui donnant une raison d'être pour qu'elle ne se résume plus aux bénéfices réalisés ?» Intitulé « L'entreprise objet d'intérêt collectif », ce document formule une quinzaine de propositions pour faire évoluer cette entité et à terme modifier le regard que la société porte sur l'entreprise. C'est Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, et l'ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Nota, qui ont travaillé sur ce rapport.
C'est d'abord l'idée que l'entreprise, elle n'est pas seulement au service de ses actionnaires. Bien sûr, elle y est attentive, c'est complètement nécessaire des actionnaires. Mais elle doit désormais également, et d'ailleurs beaucoup d'entreprises en ont déjà pris conscience et agissent dans ce sens, qu'elles doivent prendre conscience de nouveaux enjeux qui la concernent, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, qui la mettent dans une nouvelle relation avec son écosystème et qu'elle doit identifier parce que ces enjeux sont porteurs de risques parfois. Si je ne fais pas attention à mes impacts environnementaux, je peux avoir des soucis en termes judiciaires, je peux avoir des soucis en termes de réputation. On permet aussi, on propose que des entreprises qui veulent aller plus loin, celles qui souhaitent être des entreprises à mission, alors à ce moment-là, elles peuvent inscrire dans leur statut le fait que, oui, je fais du business, mais je fais du business avec une certaine idée de ma mission qui va dans le sens du développement durable, qui va dans le sens de préoccupations plus sociétales et générales. Et à ce moment-là, ma mission, elle devient opposable, y compris aux actionnaires, puisqu'il faudra que les actionnaires aient voté ce principe de mission.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. À l'étranger, le président chinois Xi Jinping se félicite de l'annonce surprise d'un sommet USA-Corée du Nord, un sommet Donald Trump-Kim Jong-un à la fin du mois de mai, avant la fin du mois de mai. Mais il n'entend pas le dirigeant chinois rester sur la touche. Il a passé un coup de fil à son homologue Donald Trump aujourd'hui pour l'appeler à dialoguer au plus vite avec la Corée du Nord. Côté américain, on explique que c'est la stratégie d'isolement de la Corée du Nord établie par l'administration Trump à coup de sanctions économiques qui a fonctionné
actionné pour arriver à ce résultat, à cet espoir d'ouverture. C'est du moins ce qu'affirme Mike Pence, le vice-président américain, dans un communiqué publié aujourd'hui. Et sur place, en Corée du Sud, et bien même si beaucoup d'incertitudes planent encore sur cette possibilité de sommet encore hypothétique, les réactions des Sud-Coréens aujourd'hui sont plutôt positives. Reportage à Séoul de notre correspondant Frédéric Ojardias.
La nouvelle a pris tout le monde par surprise en Corée du Sud. Après une année 2017 marquée par des échanges d'insultes et de menaces de guerre, personne ne pensait qu'une rencontre aussi soudaine entre Kim Jong-un et Donald Trump soit possible. Kenneth Kang, étudiant, et Kak Woo-shik, journaliste.
Meeting USA and North Korea.
Ce sommet Corée du Nord-États-Unis nous donne l'espoir que la réunification est possible. C'est vraiment bien. Je ne crois pas que le régime nord-coréen va vraiment accepter de renoncer au nucléaire, mais le sommet en lui-même compte beaucoup pour la Corée du Sud.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis très surpris. C'est une excellente nouvelle. À l'origine, je n'aime pas Donald Trump. Mais s'il réussit à passer un accord avec Kim Jong-un, je vais changer d'avis sur lui. Peut-être que les deux dirigeants pensent qu'un accord est possible. C'est pourquoi ils veulent se parler.
Chacun sait qu'un tel compromis sera très difficile, mais au moins, jusqu'à mai, l'heure est à la diplomatie sur la péninsule coréenne.
Frédéric Ojardias. Le résultat d'une négociation politique plutôt réussie en Allemagne, ce sera montré en exemple dans les formations de sciences politiques. Le SPD vient de dévoiler la liste des 6 ministres qui participeront au gouvernement de la grande coalition chapeautée par la chancelière Angela Merkel. Malgré une défaite électorale cinglante lors des dernières élections, le Parti social-démocrate aura en charge les affaires étrangères avec Heiko Maas en remplacement de Sigmar Gabriel, le travail, la justice, la famille, l'environnement et l'économie. Au grand dam des conservateurs, c'est Olaf Scholz, plutôt modéré cela dit, qui devient ministre des Finances de la coalition avec le titre de vice-chancelier. Le portrait d'Olaf Scholz par David Philippot.
Ce n'est pas lui qui a été choisi pour incarner le renouveau, plutôt le sérieux. À 59 ans, Olaf Scholz a déjà été ministre du Travail et il fut le secrétaire général du Parti social-démocrate sous Gerhard Schröder, chargé du service après-vente des fameuses réformes libérales. De cette époque, il garde l'image d'un homme à la droite du parti. En Allemagne, sa notoriété est grande, mais sa popularité est faible. Homme du Nord et de peu de mots, originaire de Hambourg, la ville qu'il a couronnée maire, on a bien cru qu'Olaf Scholz ne survivrait pas politiquement aux deux scandales qui ont plombé les finances de la ville, la philharmonie de l'Elbe au coup pharaonique, ainsi que l'organisation catastrophique du dernier G20 avec Hambourg vandalisé par les émeutiers pendant tout un week-end. Mais ce fin stratège a su attendre son heure et profiter du chaos au sein du Parti social-démocrate pour se hisser à la place de numéro 2 du gouvernement, un poste stratégique à l'heure où l'Allemagne veut aller dans le sens des propositions du président Macron sur l'Europe. Le nouveau grand argentier a déjà prévenu, comme pour mieux se démarquer de son prédécesseur Schäuble, lui ne fera pas la leçon sur la manière dont les pays du Sud doivent se développer.
Correspondance de David Philippot. En Syrie, pour la première fois depuis 10 jours, les bombardements ont baissé d'intensité la nuit dernière sur la Ghouta orientale. Léger et très relatif répit pour les centaines de milliers d'habitants toujours pris au piège dans cette enclave rebelle située en périphérie de Damas. Des habitants qui, pour certains, notamment dans la ville de Douma, ont également pu profiter aujourd'hui de l'arrivée d'un convoi humanitaire, 13 camions du Croissant Rouge syrien. Ils ont pu livrer la totalité de leur cargaison avant de repartir au moment où les bombardements reprenaient à la mi-journée. Une goutte d'eau dans un contexte humanitaire toujours plus pressant, alors que les besoins, notamment dans les villes de la Ghouta, sont en augmentation. Les explications de Joël Bassoul de l'ONG CARE, jointe au Liban par Nadine Epstein.
Alors les personnes auxquelles je parle, moi, sont surtout dans des centres urbains de la Ghouta orientale, donc dans des villes comme Douma et ailleurs. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a surtout eu des déplacements de population à l'intérieur. Donc les gens qui étaient plutôt dans les régions agricoles de la Ghouta orientale se sont déplacés pour aller se réfugier dans les zones urbaines qui continuent d'être bombardées. Donc pour l'instant, il y a un mouvement de population interne. Les gens ne peuvent pas quitter l'enclave. Même s'il y a eu, soi-disant, un corridor humanitaire mis en place, les gens ne partent pas. Et donc ça va encore faire augmenter les besoins humanitaires. Parce qu'une fois qu'on a quitté sa maison, qu'on n'a plus rien, on compte surtout sur l'aide des autres pour pouvoir survivre.
Dès lors, est-ce que d'autres convois sont prêts à rentrer ravitailler la Ghouta ?
Alors, chaque convoi qui part de Damas pour ravitailler la route est soumis à l'approbation des autorités syriennes. Et ça, c'est quelque chose, un processus qui prend très longtemps, qui n'est pas toujours très facile. Ce convoi qu'on a vu donc livré en deux cargaisons entre lundi et aujourd'hui, on l'attendait depuis déjà plus d'une semaine. Il a mis du temps pour pouvoir partir, pour avoir toutes les autorisations d'un côté. Et de l'autre, la situation sécuritaire sur place n'est pas toujours garantie. Les humanitaires ne peuvent pas travailler s'il y a des raids aériens. Donc, tant que les autorités syriennes ne permettent pas au convoi de partir et qu'il n'y a pas un arrêt des raids et de bombardements, le travail humanitaire ne peut pas être fait. Pour la suite, oui, il y a de l'aide en stock dans plusieurs endroits qui peut être livrée dans la route orientale, mais à nouveau, ça dépend du bien vouloir des autorités syriennes.
Et depuis le 18 février, près de 950 civils ont péri sous les bombes des forces pro-régime contre le dernier bastion rebelle de la route orientale. Plus au nord, les forces turques et leurs alliés auraient totalement encerclé la ville d'Afrin, tenue par des milices kurdes. C'est en tout cas ce qu'affirmait tout à l'heure à la télévision turque le président Recep Tayyip Erdogan, expliquant que les soldats turcs pourraient entrer à tout moment dans Afrin. L'armée française est confrontée depuis quelques mois à des soupçons de favoritisme. On en vient donc à l'enquête de cette édition. Elle est signée ce soir Benoît Colomba. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Du service investigation de Radio France avec Geoffrey Livolsi. Vous avez enquêté sur cette affaire qui secoue ces temps-ci le ministère de la Défense.
Oui, des soupçons de favoritisme dans le transport militaire aérien. Selon les documents que nous avons pu consulter, plusieurs hauts gradés semblent être intervenus pour favoriser une entreprise française qui fournit des avions à l'armée pour ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, comme au Mali ou en Centrafrique. Cette entreprise, elle s'appelle ICS. Le parquet financier enquête depuis l'été dernier. L'état-major de l'armée a été perquisitionné. C'est donc une affaire hors norme, estime le journaliste du Point Jean Guinel, qui suit les questions de défense depuis de nombreuses années.
Si ça s'est produit, ce serait très grave. Ce que je peux dire de mon expérience, c'est que des affaires de corruption dans l'armée française, des affaires de fraude explicite, de favoritisme et tout ça, ça n'arrive vraiment pas fréquemment. Ce serait une affaire gigantesque, évidemment.
Et l'origine de cette affaire remonte à loin. Depuis 30 ans, en fait, la société ICS est dans les petits papiers de la défense. En 2011, elle devient le principal prestataire de l'armée française, ce qui finit par agacer certains concurrents. En 2016, l'un d'entre eux accuse même ICS d'avoir falsifié des documents et alerte le ministère, mais ICS reste en place. Au final, ICS a reçu plus de 200 millions d'euros de l'armée française entre 2012 et 2015.
Il y a également des questions, Benoît, qui se posent sur l'argent versé à cette société.
Oui, avec d'étranges circuits financiers qui passent notamment par une filiale basée à Singapour, un paradis fiscal à qui l'armée française va régler 2 millions d'euros. Inexplicable pour le député LR François Cornu-Gentil, auteur d'un rapport sur le transport aérien militaire. Il a eu entre les mains l'une de ses factures.
J'ai pas eu d'explication sur l'intérêt de cette facture. On est dans un flou qui peut entraîner dans des dérives. Je trouve qu'il y a une zone de danger. L'armée française va utiliser ICS qui est beaucoup plus cher. Et donc moi j'étais assez saisi devant l'inertie des états-majors, du ministère. En dépit des questions qu'on a formulées, on n'a eu aucune explication claire.
Des paiements à Singapour, il n'y a rien d'illégal à ça, répond un ancien salarié d'ICS, Thierry Descamps.
Quand une société veut cacher des choses, elle ne le fait pas à son nom. C'est simplement une société en croissance qui veut commencer à conquérir des parts de marché. Et c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de magouille. C'est pas un métier dans lequel on peut tricher. On travaille avec l'État.
Mais il y a autre chose. L'enquête a aussi révélé que le chef d'état-major du service logistique avait transmis à ICS plusieurs documents confidentiels avant d'être ensuite embauché par l'entreprise.
Et alors aujourd'hui, Benoît, est-ce que l'armée française travaille toujours avec cette société ?
Alors officiellement, non. Depuis le 30 novembre dernier, ICS est censé être écarté des marchés de la défense. Comme l'a dit sur France Inter le 9 février dernier, la ministre des Armées, Florence Parly.
Quand une autorité, quelle qu'elle soit, une personne a connaissance d'un fait qui pourrait laisser penser que la loi n'a pas été respectée, elle a l'obligation de le signaler et d'en saisir la justice. C'est ce que j'ai fait et depuis, cette société n'est plus en contrat avec notre ministère.
Sauf qu'en fait, selon nos informations, l'armée française continue à passer des contrats avec ICS. Contacter le ministère des Armées n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Merci Benoît Colomba de la cellule investigation de Radio France. Votre enquête est à retrouver en détail sur sur franceculture.fr. Quelques mots du temps pour la journée de demain, un samedi doux et plutôt humide, explique Météo France. Les températures seront en hausse, mais le ciel restera couvert sur la moitié nord du pays. Des orages sont possibles dans l'après-midi, du sud-ouest jusqu'au centre. Belles éclaircies sur la Bretagne. Les températures maximales seront comprises entre 12 et 19 degrés.